Culture et confiture. Une chronique bien tartinée par Manon Seren.
Vous reprendriez bien un peu de culture ? Alors c'est parti ! Mais avant tout, si vous êtes encore au petit-déj, faites griller les tartines, beurrez et ajoutez votre cuillère de confiture. Mais surtout, n'étalez pas trop votre culture. C'est parti pour un nouvel épisode de Culture et confiture. Pour débuter cette chronique, je vous pose la question : que s'est-il passé un 15 mai ? Une exposition et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la première exposition universelle en France. Et elle s'est tenue un 15 mai, donc celui de l'année 1855. Alors, avant de vous raconter les petits secrets de cet événement, l'exposition universelle Kezako. C'est en vérité une foire internationale qui promet des échanges culturels et commerciaux inédits. Sur place se croisent exposants qui proposent à des visiteurs du monde entier une multitude de produits agricoles, culturels et industriels. Plus tard, les expositions universelles deviendront ainsi de véritables vitrines pour les pays exposants qui dévoilent leurs avancées dans ces différents domaines avec un objectif éducatif pour les différents publics. Alors si je vous parle de l'exposition française, la première exposition universelle mondiale est en vérité née à Londres. Et oui, c'est sur la terre anglaise qu'en 1851 on inaugure l'exposition qui inspirera de très près Louis-Napoléon Bonaparte quelques années plus tard pour la version française. Soucieux de prouver la puissance de la France, qu'il désire au moins égale à l'Angleterre en termes d'ingéniosité et de créativité, il lance le projet Made in France. Pour le lieu d'accueil, il se rapproche de l'architecte Victor Niel qui construit, accompagné d'ingénieurs, le palais de l'industrie, soit 45 000 m² entre la Seine et les Champs-Élysées. Ce palais est une véritable prouesse technique pour l'époque. Il sera détruit en 1897 avant d'être remplacé par le Petit et le Grand Palais. Mais c'est un 15 mai, donc celui de l'année 1855, que Louis-Napoléon Bonaparte, alors Napoléon III, ouvre les portes de l'exposition universelle à près de 5 millions de visiteurs, dont la reine d'Angleterre ou encore le roi du Portugal. On comptabilisera également 24 000 exposants et 34 pays participants sur toute l'exposition. Le Palais des Beaux-Arts, qui fait alors office d'annexe à l'événement, expose notamment la peinture française avec les grands noms des peintres Ingres, Delacroix ou encore Courbet. Cette exposition artistique sera d'ailleurs une particularité de l'exposition universelle française.
Culture et confiture.
À la fin de l'exposition, 5 mois plus tard, le 15 mai 1855, une cérémonie de récompense est organisée devant 40 000 spectateurs et c'est un orchestre dirigé par le compositeur Berlioz qui s'occupera de chauffer l'ambiance. Enfin, vous m'avez compris. Trêve de plaisanterie, seront récompensés lors de cette cérémonie Ingres et Delacroix se faisant nommer grand officier et commandeur de la Légion d'honneur. De nombreuses médailles seront également attribuées à différents exposants, ceux qui auront su notamment se faire remarquer pendant l'exposition par leur ingéniosité qui permettra une amélioration de l'industrie dans le pays. Malgré cela, le vœu de Napoléon de concurrencer l'exposition anglaise se discutera car la France sortira déficitaire financièrement de l'événement. Par la suite, d'autres expositions européennes s'organisent, notamment à Madrid, Bruxelles, Bordeaux, Saint-Pétersbourg ou encore à Lisbonne. Plusieurs expositions se succéderont ensuite en France, dont celle de 1900 qui a offert à la France sa célèbre Tour Eiffel. La dernière exposition universelle en date est celle de 2015 qui a eu lieu à Milan avec comme thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Et c'est cette année à Dubaï que devait se tenir la prochaine édition, mais au vu de la situation sanitaire, celle-ci est repoussée d'un an. Sachez que dans l'histoire, notre région aussi a accueilli de grandes expositions internationales. Et oui, en 1951, Lille accueillait l'exposition textile internationale qui a fait de la ville la capitale mondiale du textile pendant 3 semaines. Chaque journée de l'événement proposait alors un focus sur une des spécialités de l'industrie, mais aussi des inventions et innovations technologiques de l'univers textile. Les entreprises de notre région sont alors mises sur le devant de la scène à une époque où cette filière est majeure dans l'industrie locale. Aujourd'hui encore, surtout en cette période, l'industrie textile de notre région mérite d'être encouragée, notamment pour son implication dans la confection de masques en tissu pour se protéger de l'épidémie du Covid-19. Plus d'excuses à présent pour vous en procurer et surtout vous protéger. À Allez, soyez prudents et à très vite pour un nouvel épisode de Culture et Confiture.
Retrouvez Culture et Confiture en podcast sur notre site rpl.radio.